Kamal Mourgan est mort. Comme il n'est pas Dieu, il ne va pas ressusciter. Il ne croit pas non plus à la réincarnation. À partir de maintenant, il va simplement vivre comme l'enseignant qu'il a toujours été. Laissez-le tranquille. En publiant ce message sur sa page Facebook en 2015, le romancier indien Perumal Murugan mettait donc un terme à sa carrière, commettant alors ce que la presse a qualifié sur le coup de suicide d'écrivain. Depuis la publication, quelques éléments de contexte quand même si vous n'avez pas suivi l'affaire, depuis la publication de son roman Madhuru Bagan, qui avait été traduit sous le titre One Part Woman, dans lequel il abordait la question de l'infertilité masculine et de l'infidélité, Murugan s'était attiré la colère de plusieurs groupes. Il était accusé de blasphème par des groupes fondamentalistes, tout en étant rejeté aussi par les membres de sa propre communauté ou, en l'occurrence, de sa propre caste. En gros, il avait réussi l'exploit de mettre tout le monde d'accord, malheureusement d'accord contre lui. Après avoir subi tout un tas de violences, donc il a reçu des lettres de menaces, il y a eu des manifestations publiques contre lui, des autodafés évidemment, tout ce qui est classique, et il a aussi été arrêté par la police qui l'a forcé à signer des lettres d'excuses. Murugan a donc décidé de mettre un terme non seulement à son activité d'écrivain, mais aussi à son statut et à sa condition d'écrivain. Je le relis. Perumal Murugan est mort, comme il n'est pas Dieu, il ne va pas ressusciter. Alors Murugan n'est peut-être pas Dieu, mais il est ou il fut du moins autre chose qu'un simple humain, il fut un profil sur Facebook. Son suicide est d'ailleurs intervenu, et j'insiste sur le terme intervenir plutôt que mettre en scène, intervenu donc sur le réseau social à travers un profil qui depuis a été supprimé. On pourra objecter bien sûr que l'emploi du terme suicide est ici un peu radical, qu'il s'agit d'un titre racoleur, propre à la rhétorique médiatique, mais c'est pourtant au sens propre que je propose de le considérer. En reconnaissant qu'un écrivain peut bel et bien se suicider sur Facebook, je veux attirer ici l'attention sur le statut assez singulier du profil d'usager, tel qu'il se construit aujourd'hui sur le web, et qui joue un rôle essentiel dans la constitution du sujet numérique. Le profil d'usager a moins, à cet égard, une fonction représentative qu'une fonction performative. On aurait donc tort, je crois, de considérer le suicide de Perumal Murugan comme une action purement et seulement symbolique. J'en prends pour preuve ici le contexte sociopolitique indien, de plus en plus hostile à la liberté d'expression, occupé par des conflits de castes, pourri par de nombreuses pressions religieuses. Un contexte qui a conduit, la même année ou presque, à l'assassinat de Govind Pensare, écrivain et ancien dirigeant communiste, mais aussi à celui d'Aviritroa, intellectuel et militant athée, lui aussi était écrivain, et tous deux ont été assassinés, attaqués et poignardés en pleine rue. Dans ces trois cas, à mon sens, on assiste à la mort d'un écrivain, même si celle de Perumal est numérique, le résultat est le même, l'écrivain est réduit au silence, il est attaqué ou chassé de l'espace public. Et ici, je veux bien insister sur la notion d'espace telle qu'on la conçoit. Qu'il soit question du web ou de la rue, on parle bien ici d'un enjeu de présence dans l'espace public où s'annule du coup la distinction entre ce que serait le corps physique de l'auteur et le corps numérique, soit le profil Facebook. Je préfère insister sur le terme de profil plutôt que celui d'avatar, qui fait à mon sens encore la distinction entre les deux espaces, espace numérique et non numérique. On notera d'ailleurs que la démarche de Murugan est tout à fait radicale pour le coup. Il n'a pas seulement supprimé son profil Facebook et cessé toute activité d'écriture. Il a fait retirer tous ses ouvrages des librairies et des bibliothèques. Il a fait détruire ce qui était encore sous presse et il a lancé des messages incitant ses lecteurs à brûler ses livres. Si donc, depuis le début de ce colloque, nous avons envisagé des entités particulièrement spectaculaires, on a parlé d'intelligence artificielle, de cyborgs, de prothèses, c'est par le biais d'un objet très commun que nous avons tous, qui est devenu omniprésent dans notre quotidien, que je voudrais envisager la question des subjectivités numériques, mais aussi peut-être un peu du post-humain. Ce fameux profil d'usager qui est devenu l'un des piliers du web participatif ou du web 2.0, puisque chaque grande plateforme nous demande aujourd'hui la création d'un profil, alors évidemment celui des réseaux sociaux qui est le plus connu, mais aussi les plateformes en ligne, les plateformes de jeux en ligne, les sites de rencontres, les forums, les journaux, jusqu'à ce profil d'utilisateur Souvent méconnu, mais déjà plus polémique, celui qui est issu de la collecte de nos données numériques et du big data, chacun de nos clics étant en effet archivé et calculé, enregistré pour servir des intérêts, sans doute justement peu en phase avec nos propres intérêts. Donc d'abord conçus à des fins purement pratiques, ces profils sont devenus des espaces d'expression et d'écriture de soi inattendus, largement investis ces dernières années par les artistes et les écrivains qui en exploitent les contraintes et les potentialités pour construire leur identité et leur auctorialité. Or, dans certains cas, l'investissement de cet espace numérique est tel que le profil d'usager devient même la seule incarnation de l'auteur, lequel n'existe qu'à travers la médiation du réseau social. C'est le cas notamment de tout un panel d'écrivains hypermédiatiques, je vous en présenterai quelques-uns, des écrivains qui œuvrent sous pseudonyme ou encore des collectifs d'auteurs. Le cas du suicide d'écrivain de Perumal Murugan constitue un indice très fort, bien que tragique, d'une fusion entre des instances typiquement littéraires, l'auteur, l'écrivain, le personnage d'écrivain, la personne, mais aussi d'une fusion entre l'homme et l'outil logiciel, la plateforme numérique, le réseau, ou même ce que l'on voudrait qualifier de représentation numérique du sujet. Donc aujourd'hui, c'est un corpus beaucoup plus ludique que je vais vous présenter, aux accents parfois oulipiens. Et je me référerai donc à ces stratégies qui permettent au profil de s'imposer comme une instance indépendante, encourageant à repenser à la lumière des plateformes le clivage homme-machine et ses dérivés, donc numérique-non-numérique, avatar-personne, virtuel et réel. Il me semble qu'à terme, le profil permet d'abandonner le paradigme représentatif et ouvre la voie à une nouvelle forme de production identitaire, laquelle n'est bien sûr pas du tout exempte de ses propres problèmes. On en verra quelques-uns. Alors, le profil est devenu vraiment un sujet de recherche assez largement travaillé aujourd'hui. J'ai pas le temps de développer beaucoup de choses là-dessus, mais si vous êtes intéressé par une série de références bibliographiques, je pourrais vous en donner. Nous, on le travaille à Montréal depuis maintenant un an. Notre projet de recherche est inscrit dans le cadre d'une réflexion sur le statut de l'auteur, et vous verrez, je vais présenter surtout des profils d'écrivains, puisque les auteurs ont été d'ailleurs très nombreux en fait à investir les réseaux sociaux pour prendre en charge leur propre valorisation tout en s'émancipant des institutions éditoriales traditionnelles. Donc, à titre personnel, je mène des recherches sur le profil depuis bientôt 2 ans. Ma perspective est photolittéraire, c'est-à-dire que j'étudie les rapports texte-image. Donc, je défends l'existence d'une écriture profilaire qui peut relever d'une forme numérique de récit de soi, mais qui aussi a investi la fiction. On en verra un exemple à la fin de ma communication. Donc, mon approche privilégie l'hypothèse de la continuité plutôt que de la rupture, ce qui me semble indispensable dès lors que l'on mène une archéologie du concept. Pour comprendre ce que l'on entend par profil, il faut remonter assez loin. Le profil renvoie d'abord à cet objet propre au domaine de la représentation visuelle, qui qualifie un portrait de côté, une esquisse des contours, figure ou visage à moitié montré, c'est-à-dire aussi à moitié caché. Étroitement associé au mythe des origines de l'art, je pense à Dibutad, la forme de profil s'inscrit dans une longue et riche tradition artistique depuis la peinture pariétale à l'art de la silhouette au XIXe. Emprunté une première fois dans les années 20 par le jargon de la psychanalyse, le terme vient alors désigner plutôt des traits de caractère, selon un sens figuré qui aujourd'hui est passé d'ailleurs dans l'usage courant. Dans la foulée, le profil est intégré au jargon judiciaire. Je vous renvoie à cette fameuse image de Bertillon, ses profils. Donc là, il y a tout le caractère physiognomoniste, c'est assez intéressant, mais je ne rentre pas là-dedans. Et les fameux profilers qui établissent les typologies criminelles. Ciblé un peu plus tard par les recruteurs ou chasseurs de tête, le profil professionnel se dote d'une connotation un peu plus positive, qui était assez intéressante dans le cadre de nos recherches, parce qu'elle renvoyait aussi aux compétences que l'on donne, par exemple, à l'écrivain. Enfin, depuis quelques années, le terme a encore gagné en popularité grâce aux réseaux sociaux, même si le profil est devenu omniprésent sous de nombreuses formes avec le web participatif. Donc, impossible ou presque aujourd'hui de faire pleinement usage du web sans se créer quelque part un fameux profil qui fusionne et redétermine à la fois les principales acceptions historiques du terme, profil visuel et profil psychologique. Facebook, Twitter, Tumblr, pour citer ici les plateformes les plus connues, œuvrent à la construction des identités numériques et le lien de parenté avec les traditions des écritures de soi est assez évident. Sur le plan formel, ces plateformes articulent des contenus à la fois textuels, s'inspirant souvent de la forme diaristique. Sur Facebook, vous publiez sur votre journal. Et visuel, encourageant ici l'exercice autoportraitiste, aujourd'hui requalifié souvent de selfie, qui repose sur un principe de concision et une logique conversationnelle. Alors bien évidemment, ces espaces de profil sont loin de constituer des espaces de création pleinement libres. Sur le plan graphique d'une part, la plateforme est largement standardisée, souvent elle est polluée par des éléments à caractère publicitaire. Contrairement au blog, où l'auteur a le plein pouvoir sur ses publications, Facebook est soumis à des règles d'utilisation strictes qui, lorsqu'elles sont transgressées, peuvent conduire à l'exclusion et à la censure. Je vous mets au défi d'essayer de publier sur votre profil Facebook une image de l'origine du monde, par exemple. Ces plateformes profilaires imposent des formats préconstruits et rigides qui favorisent généralement la concision et l'instantanéité. Autant de limites spatiales et temporelles qui relèvent donc à certains égards d'une écriture à contrainte permettant de réinvestir l'idée d'une représentation de profil partielle et fragmentaire, moitié humaine, moitié logicielle, et qui donne à l'écriture profilaire des aspects parfois très oulipiens. Donc le profil investit un certain nombre de problématiques posées par la question des subjectivités numériques, mais aussi du post-humain. J'en citerai trois, il y a certainement d'autres problématiques qu'on peut extraire de cet objet. Trois qui me semblent assez prometteuses, on les a abordées pour certaines au cours de ce colloque, et qui jouent autour des différentes relations possibles entre l'humain et la plateforme, l'humain et le logiciel. Tout d'abord, rapport aux relations de concurrence, qui vient à poser la question finalement de l'autonomie ou de l'hétéronomie de l'individu sur le web. C'est-à-dire dans quelle mesure mon identité numérique, voire mon identité tout court, puisque j'insiste, je veux vraiment démontrer que l'espace entre le monde physique et le monde numérique tend ici à s'annuler, en quelle mesure mon identité est-elle donc déterminée par les plateformes ? Dans quelle mesure la plateforme est-elle un moule identitaire qui m'enferme plutôt qu'elle ne me permet de m'épanouir ? Autre relation, celle de concordance. Sommes-nous tous aussi facilement calculables qu'il n'y paraît ? Récemment, Stigler a proposé dans un article, je crois que c'était dans les Inrocks, cette phrase qui a été d'ailleurs citée en sous-titre, « Être entièrement calculable par les algorithmes nous réduit à rien ». Donc un peu apocalyptique comme vision, mais tout de même, comment maîtriser certaines structures telles que ces algorithmes, supposés organiser le web à partir de l'étude de nos comportements, mais qui en vérité ont une véritable influence sur nos comportements et sur notre pensée. Si on prend l'algorithme de Facebook, le PageRank, qui impose en fait un nouveau système de valeurs, notre pensée est totalement redéterminée, notre accès au monde redéterminé par les algorithmes. Les dernières générations d'algorithmes, surtout ceux qui sont appelés les prédictifs, donc c'est ceux de Netflix ou d'Amazon, parient sur notre caractère modélisable et calculable. L'idée, c'est que plus tard, ils vous proposeront d'acheter, ils sauront déjà tous vos goûts. Ce qui ne manque donc pas de susciter des inquiétudes, puisque si nous sommes tous calculables et prédictibles, nous sommes finalement peu différents des robots que nous créons. Autre relation, celle de surveillance, qui renvoie bien sûr à la question du profilage ici. La machine n'est-elle là que pour mieux m'espionner, mieux me contrôler ? Là aussi, encore une fois, c'est face à cette nouvelle génération d'algorithmes prédictifs où nous sommes, tous nos clics sont enregistrés et calculés, ce qui fait dire notamment à Louise Merzot que nous sommes en concurrence avec notre entité purement numérique qui tend à se substituer au sujet réel que nous sommes. Je la cite. « La personne qui sert de filtre à l'information n'est pas celle de nos CV, de nos appartenances et de nos papiers d'identité, même si de plus en plus elle en tient lieu. C'est une entité purement numérique qui se résume à la collection des traces laissées par nos connexions. Requêtes, téléchargements, géolocalisation, achats, mais aussi contenus produits, copiés, repris, etc. » Nous n'avons qu'une connaissance approximative de cette identité disséminée sur les réseaux. Opérateurs, marchands, moteurs de recherche et services de renseignement en savent plus sur nos comportements numériques que nous-mêmes, car ils ont la capacité de les archiver, de les recouper et de les modéliser. Donc ici, il y a une certaine idée, une certaine inquiétude par rapport à notre identité numérique qui serait un rouage dans un système de consommation de masse où nous travaillons nous-mêmes pour mieux ensuite consommer, mieux acheter ce que nous avons nous-mêmes construit. Donc là, ça renvoie à la problématique du digital labor. Alors le tableau dressé ici est volontairement apocalyptique, bien que les inquiétudes soulevées soient évidemment légitimes. Mais contre ce déterminisme technologique, qui est, je crois, un vrai risque écueil théorique en cette période numérique, il existe heureusement de nombreuses pratiques que l'on peut étudier qui viennent rétablir un certain équilibre. Je vais voir maintenant, dans le temps qu'il me reste avec vous, comment les pratiques littéraires, ce que j'ai appelé plutôt l'écriture profilaire, cherche à répondre à ces problématiques en investissant et en créant des profils, pour le coup, détournés. Ce que je voudrais vous présenter, ce sont donc des stratégies de résistance peut-être, mais plus exactement des stratégies de maîtrise de la déprise. C'est un terme que j'aime bien, qui a été employé par Louise Merzeau il y a quelques semaines dans un séminaire. Autrement dit, comment mieux investir les espaces profilaires pour reprendre le contrôle de nos traces, comme nous y encourage donc Louise Merzeau. Mon corpus, je vous l'ai dit, est composé de nombreux profils d'auteurs, puisque mes recherches portent principalement sur la construction visuelle de l'écrivain sur le web, mais on verra aussi quelques exemples empruntés à la fiction. Donc, stratégie numéro 1, s'exhiber pour mieux se dérober. Pour ceux qui connaissent les publicités au BAD, je viens de me rendre compte que ça ressemble un peu à ça. Bref. Alors, la plupart des écrivains dont je vais parler aujourd'hui ont une existence qui est pour l'essentiel numérique, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord opté pour une production et une diffusion de leurs récits en ligne, qu'ils ont du coup bâti leur figure auctoriale sur le web, qui est devenu pour le coup un espace d'exposition, aussi bien qu'un écran de protection. La particularité de ces profils est de jouer entre monstration et dissimulation, dans une construction visuelle qui s'établit à la frontière entre le visible et l'invisible. L'auteur, autrement dit, va construire son identité à partir d'un torpillage de l'impératif référentiel, en cultivant une forme paradoxale d'anonymat ostentatoire ou d'invisibilité obscène. Alors je m'explique, l'auteur ici joue en fait à se cacher, à mettre en scène son anonymat, exploitant ici l'association contradictoire entre pudeur et exhibition. David parlait beaucoup de l'extimité sur le web, ici il s'agit justement de jouer complètement de l'extimité pour la torpiller. L'exemple que je vous présenterai ici est le profil de l'écrivaine québécoise Anne Archet. Alors, il existe vraiment un grand mystère autour d'Anne Archet, c'est-à-dire que la plupart des auteurs qui sévissent sous profil, la plupart du temps, on finit quand même par les connaître. Hein. On sait quelle est l'identité, quelle est la personne, on les rencontre, comme d'ailleurs tous les écrivains sous pseudonyme. Anne Archet, vraiment personne ne sait qui c'est. Même dans les milieux des écrivains, personne ne sait qui c'est. Alors, sur Twitter, vous pouvez l'invoquer, c'est-à-dire si on dit « Anarchée, Anarchée, Anarchée » trois fois, elle finit par répondre, souvent pour vous insulter d'ailleurs. Donc, Anarchée est le pseudonyme anarchique, vous l'aurez compris, d'une auteure dont la production littéraire est essentiellement érotique, voire pornographique. Anarchée dit elle-même qu'elle fait de la pornographie et non de la littérature, mais c'est quand même assez littéraire. Ces textes érotico-pornographiques sont publiés en ligne sur un blog au titre évocateur qui s'intitule Lubricité. Je vous encourage à y aller, n'ayez pas peur, vous allez avoir un disclaimer au début qui vous avertit que le disclaimer est parodique, hein, justement, c'est assez rigolo. Il dit « Attention, tu vas rentrer sur un site et j'écris que des choses pornographiques, donc il faut entrer ». Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le profil d'Anne Archet sur les réseaux sociaux est une véritable métonymie du travail de l'auteur, qui repose sur une appropriation polémique des plateformes, en particulier de la construction identitaire, encouragée par le web social. Sur Twitter, le profil d'Anne Archet expose le corps féminin dans une pose lascive, mais au risque de décevoir, joue la carte de la transparence au point d'en devenir invisible. Jouant ici avec le profil conçu comme dispositif identitaire, Anne Archet se révèle plus nue que nue, déshabillée jusqu'à l'os, mais conserve quelques signes de reconnaissance, signature de son travail d'écrivaine érotique. Les talons aiguilles, symbole érotique fétichiste, la cigarette, symbole de la femme fatale. Sur Facebook donc, Archet change très régulièrement ses photos de profil, toujours assorti à ses photos de couverture, et le dispositif visuel cultive cet anonymat ostentatoire, voire obscène, qu'il s'agisse de la version biscuit au gingembre, La version poupée Barbie, ou plus récemment, celle que j'aime beaucoup, les hystériques de la Salpêtrière. Donc, on avait parlé un peu avec Hélène de cette représentation toujours genrée et stéréotypée où la femme est soit sexualisée, soit hystérique. Ici, évidemment, on a les deux imaginaires qui se rejoignent. Donc, cette indécidabilité identitaire, Archer l'explique en ces termes sur son blog Lubricité. Enfant, je rêvais d'être la femme invisible. En vieillissant, j'ai appris à la dure que non seulement l'invisibilité n'existe pas, mais qu'être visible est une malédiction. Être vu, être nommé, c'est se faire voler sa vie. Donc l'écriture profilaire peut, de façon très paradoxale, reposer sur un refus de la représentation au profit d'une stratégie performative, qui revendique une identité dynamique, labile et insaisissable. Et par-delà son aspect ludique, un profil tel que celui d'Anne Archer nous encourage à réfléchir évidemment au statut de l'auteur. Et je crois qu'on pourrait en fait ouvrir cette remarque au sujet lui-même en général. Peu importe l'identité civile ici d'Anne Archer, qui est-elle sinon ce profil lui-même, un profil problématique qui refuse complètement de se laisser définir. L'hypothèse d'une fusion entre l'auteur et son profil que j'ai suggéré tout à l'heure avec Morrugan se confirme ici. Le profil tend à s'imposer comme cette nouvelle instance indépendante, un espace de création à caractère autofictionnel où l'écrivain vient se produire en tant qu'auteur, performer son autorité pour faire œuvre. Stratégie numéro 2, embrasser la contrainte de la plateforme. Alors, le web participatif s'est caractérisé par l'émergence de nombreuses plateformes destinées à simplifier et à démocratiser l'accès au web. Aujourd'hui, chacun d'entre nous peut créer son site web, ou à la rigueur son blog, sans aucune compétence informatique ou presque. Il existe de nombreux CMS open source et des hébergeurs qui font tout le travail pour nous. On a des coquilles, on a juste à les remplir de texte, à choisir un template qui nous plaît. Et dans le domaine de la littérature électronique, cette évolution vers les CMS open source a généré de la part des théoriciens surtout une réception assez dubitative. Opérant ainsi la distinction entre l'auteur littéraire à laquelle peut désormais prétendre n'importe quel usager de l'outil numérique, Étienne Candel et Gustavo Gomez-Merilla suggèrent, je cite, qu'au-delà de la compétence technique de l'auteur, la valeur littéraire relèverait en particulier des connotations attribuées au prestige d'une technologie ou d'une marque à laquelle il associe son nom. Dans ce cadre, l'œuvre littéraire apparaît comme indissociable de la strate des discours tenus à son sujet comme production technique. Fin de citation. En fait, en d'autres termes, l'auteur, afin d'affirmer la littérarité de son travail d'écriture, aurait tout intérêt à s'associer explicitement à Java et à la marque à la pomme plutôt qu'à une autre enseigne de moindre prestige. Car, je cite encore les Gomez-Merilla et Candel, ce n'est pas tant lire qui compte que lire sur iPhone, ni tant écrire que écrire sous Java. Dans le champ de la littérature électronique, il y a cette idée tout de même assez répandue que pour faire œuvre, il faut être autonome, il faut être chez soi. François Bon disait ça à propos de... Oui, mais lui, il n'est pas chez lui, c'est sur Blogger, c'est Overblog, c'est ces choses-là, donc il n'est pas chez lui. C'est-à-dire qu'il faudrait maîtriser vraiment le code de son site pour être encore vraiment un écrivain. Alors, la distinction qui est proposée ici par Candel et Gomez-Merilla est cependant problématique. D'une part, comment peut-on évaluer notamment ce critère de notoriété de l'outil ? Quelle en serait la pérennité ? Faut-il, en d'autres termes, maîtriser vraiment le XML et la TEI et utiliser Linux pour faire de la littérature ? On voit bien que cette corrélation est un peu bousculée par ce nouveau phénomène de prolifération des écrivains dans des espaces numériques profilaires, qui comptent sans doute, du point de vue de ce que disent Candel et Gomez-Merilla, comme les pires pratiques possibles. Et pourtant, loin d'y voir une forme de paresse ou de solution de facilité, cet investissement procède d'une exploitation des contraintes de la plateforme pour mieux proposer une réflexion métalittéraire sur le statut d'auteur à l'ère numérique, mais aussi une réflexion sur le web tout court, et en particulier problématique de l'autonomie ou de l'hétéronomie face aux plateformes. En 2012, la Québécoise Victoria Welby publiait par exemple sur le site de petites annonces Kijiji, donc c'est l'équivalent du Bon Coin en France, certainement moins favorablement connotée que les technologies Java et Apple, l'annonce suivante. Victoria Welby, écrivaine publique, rédaction de lettres d'amour, correspondance érotique, récit licencieux, scénario lubrique, $50 de l'heure, une heure minimum. Voilà, alors, franchissant ici un pas supplémentaire dans la désacralisation de l'auteur, Welby choisit de s'attribuer sur son profil Kijiji le titre d'écrivaine publique. Alors même qu'on établissait tout à l'heure un lien étroit entre la constitution de l'autorité de l'écrivain et le prestige associé à l'outil numérique, voilà que Victoria Welby convoque sur un site de petites annonces populaires sans prétention esthétique et ne requérant d'ailleurs aucune compétence particulière susceptible de valoriser le savoir technique de l'auteur, une figure elle-même longtemps discréditée au cours de son histoire, celle de l'écrivain public, qui renonce à l'auctorialité et qui écrit pour autrui. En féminisant d'ailleurs le terme « écrivain », elle joue de plus sur l'analogie qui peut se tisser avec la femme publique, un métier encore plus vieux que celui d'écrivain. Donc évidemment, ce recours, je vous montre ici d'autres photos de profil de Victoria, ce recours à la figure de l'écrivaine publique résonne comme une stratégie ludique d'affirmation et de singularisation de l'auteur. Il s'agit d'un geste poétique et même politique. Mais cet effacement assez inédit des frontières auctoriales telles qu'il se manifeste à travers le profil d'écrivain confirme encore une fois que dans l'espace numérique, l'auteur ne doit plus seulement se chercher du côté de la personne, mais aussi du côté des stratégies de construction auctoriale introduites par le web. L'écriture profilaire, encore une fois, repose sur la maîtrise de ces plateformes, dont on sait très bien qu'elles imposent leurs contraintes éditoriales et qu'elles structurent notre écriture, voire notre construction identitaire dans le cas des réseaux sociaux. Et s'il n'est pas question d'investir le code, on ne saurait se priver d'en exploiter les connotations associées, bref, embrasser la contrainte pour en révéler le potentiel littéraire et identitaire. Stratégie numéro 3, transformer la représentation de soi en éditorialisation du soi. Donc à ces contraintes des plateformes, qui sont avant tout des contraintes éditoriales, dont l'écrivain peut encore plus ou moins jouer, s'ajoute celle de l'écosystème du dispositif web dans son ensemble. Il y a quelques années encore, quand on cherchait une information dans une information quelconque, on allait consulter un dictionnaire, on allait consulter un livre, bref, on se rendait dans une librairie ou dans une bibliothèque pour consulter des ouvrages qui étaient des entités autonomes et closes. Aujourd'hui, soyons honnêtes, toute recherche s'effectue d'abord sur le web et surtout sur Google. On tape nos termes directement dans le moteur de recherche et nous sommes aussitôt redirigés vers une somme d'informations organisées par les algorithmes. Alors chez Google, en l'occurrence, c'est le PageRank qui fonctionne avec l'indice de citation, c'est-à-dire qu'il se veut méritocratique, même si bien sûr c'est discutable. Les algorithmes qui structurent le web sont intimement liés à la question des profils, puisque leurs calculs s'appuient sur le comportement des internautes, en fonction desquels les contenus seront organisés dans l'espace numérique. En s'appuyant sur ces calculs, Google réalise lui aussi des profils visuels de tout et n'importe quoi. Donc on a des profils d'écrivains, on a des profils, évidemment je travaille sur l'image, donc Google Images, j'adore leurs profils. Des concepts tels que celui de post-humain, c'est assez rigolo parce qu'ici, en fait, dans ce nuage d'images, on retrouve des artistes dont il a été question, Lucille en parlait notamment, voilà. Concepts dont on pourrait penser qu'il n'existe justement pas d'image, ici l'invisible, qui pour le coup là encore est très visible, autant de profils en mosaïque qui sont donc intéressants au niveau sémiotique mais aussi au niveau esthétique. Bertrand Gervais a parlé de dictionnaire visuel Google Images, il a un Tumblr assez intéressant, notamment au niveau esthétique, vous avez des mosaïques qui sont plutôt assez belles, donc ici déclinaison de vert avec le haricot. Pour un écrivain hypermédiatique, il est absolument impossible d'avoir le contrôle des algorithmes et donc de son image, voire de son œuvre. Cette hétérodétermination laisse à la création profilaire une part d'incertitude, sinon un abandon total qu'on imagine assez difficile à assumer. Un cas pourtant très intéressant ici de maîtrise de la déprise serait celui de Pharaon Parka, un avatar collectif d'auteurs, là encore des Québécois, qui est principalement actif sur Tumblr et sur Twitter depuis 2011. Pour composer son profil visuel, Pharaon Parka s'en est entièrement remis au choix du PageRank, l'algorithme de Google, en prenant corps à travers une série de captures d'écran du dictionnaire visuel. Donc je vous en montre qu'un, mais sur le profil de Pharaon Parka, vous en avez plusieurs prises à des moments différents. Donc, cet usage assez oulipien ici de l'algorithme, qui s'inscrit pleinement dans les stratégies de détournement propres à l'écriture profilaire, souligne combien la construction identitaire, à commencer par celle de l'auteur, est ouverte à la fois dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, parce qu'elle ne se limite pas à une plateforme ou à une page particulière, dans le temps, parce qu'il s'agit d'un processus toujours en devenir, toujours en mouvement. De fait, pour comprendre la nature de cette écriture profilaire, il faut introduire un nouveau concept qui est celui d'éditorialisation. L'éditorialisation désigne en effet l'ensemble des pratiques et des dispositifs à travers lesquels un objet apparaît dans l'espace numérique. Elle se réfère à l'ensemble des appareils techniques, le réseau, les plateformes, les CMS, les algorithmes des moteurs de recherche, des structures, l'hypertexte, les plateformes, les CMS, les commentaires, les recommandations via réseaux sociaux, rien qu'un like va influencer votre profil, qui permettent de produire et d'organiser les contenus sur le web. En d'autres termes, l'éditorialisation est une instance de mise en forme et de structuration d'un contenu dans un environnement numérique qui nous amène à mieux comprendre les caractéristiques essentielles de l'œuvre profilaire, sa dynamicité, puisqu'elle n'est jamais définitivement achevée, et son hétérodétermination par des lecteurs, notamment, qui sont à leur tour des écrivains sur le web. Le profil est à cet égard un objet littéraire qu'on éditorialise plutôt que l'on édite. Et ce processus d'éditorialisation épouse d'ailleurs au mieux la nature même de nos subjectivités numériques. Donc c'est ici une autre façon aussi de comprendre la maîtrise de la déprise qui se met en place. La déprise n'est pas seulement la contrainte des plateformes, de la machine et des logiciels, mais aussi l'influence des communautés actives sur le web. Je voudrais juste revenir au nouveau visage de Pharaon Parca. En fait, j'ai parlé d'eux dans un colloque il y a 2 mois à l'UQAM, et ils m'ont hacké, c'est-à-dire qu'ils ont volé ma photo de profil Twitter, et ils ont pris... Alors, c'est pas mon décolleté, hein, je vous rassure, de toute façon, vous l'aurez remarqué. Et ils ont pris une image de moi dans un cours, en fait. Donc, depuis un mois, c'est bien fait pour moi, j'ai la face de Pharaon Parca. Ce qui est assez surprenant. L'écriture profilaire, et j'achève là-dessus hein, pour cet exemple, repose sur un principe de sociabilité qui est aussi très fort, sur une capacité à mettre en réseau les individus. Donc c'est un aspect finalement très humaniste qui se joue ici. Dernière stratégie, faire de mon profil un cheval de Troie. L'écriture profilaire s'exporte bien au-delà des profils d'auteurs sur les réseaux sociaux et bien au-delà des seuls récits de soi. Les écrivains s'intéressent aujourd'hui de plus en plus à cette autre forme de profil plus latente et plus polémique, celle calculée par les algorithmes prédictifs, donc non plus les méritocratiques de Google, mais plutôt ceux de Netflix et d'Amazon, qui collectent chacune de nos traces laissées sur le web et qui nous calculent dans l'idée de voir émerger des logiques comportementales et donc de prédire nos actions, mais aussi nos choix. La Française Cécile Portier a réalisé plusieurs fictions hypermédiatiques, la première étant Tractras et l'autre ensuite Étant donné. Cécile Portier réfléchit donc à travers des fictions hypermédiatiques à ce nouveau type de profil dont nous avons, à vrai dire, souvent pas connaissance ou très peu conscience. Tractras a été réalisé avec un groupe de lycéens à Aubervilliers et ça a consisté à créer toute une série de profils fictifs, donc chacun pouvait écrire des faux profils, de manière à créer en fait des leurres numériques. Donc tout se passe en plus avec une histoire de filature et une intrigue policière. Je cite ce que dit Cécile Portier. « Chaque jour nous sommes, nous, êtres de chair, mis en données. Chaque jour nous produisons, en nous déplaçant, en communiquant entre nous, un nombre incalculable de traces qui sont stockées, analysées, réutilisées. Il serait angoissant, désespérant, si nous n'avions pas toujours, nous aussi, la possibilité d'écrire notre vie, de reprendre la main sur les catégories, d'en jouer. Cette fiction a ce but, jouer avec les données au petit jeu de l'arroseur arrosé. Écrire les données qui nous écrivent, refaire pour de faux leur grand travail sérieux d'analyse et d'objectivation. Et ainsi, apprendre à lire cette nouvelle écriture dominante qu'est l'écriture par les données. Car toute écriture est un pouvoir qu'il faut savoir comprendre, qu'il faut vouloir prendre. » Donc en usant en fait de cette stratégie de détournement qui caractérise l'écriture profilaire, Cécile Portier use du profil comme une forme d'expression littéraire pour mieux opposer justement une résistance au profilage induit par le big data. À ce petit jeu de l'arroseur arrosé, Portier réalise un projet dont la vocation est de lutter contre notre analphabétisme algorithmique. À propos du projet étant donné, que je vais vous montrer rapidement, Cécile Portier dit, en effet, « Si nous sommes les premiers producteurs des traces numériques qui nous concernent, nous en sommes très peu auteurs. Les données produites à notre insu sont quantitativement plus importantes que celles que nous pensons maîtriser dans un discours, une rhétorique consciente et personnelle. De plus, nous sommes des auteurs, quasiment analphabètes. Nous avons peu accès, nous ne savons que très peu lire les données qui nous définissent. Et pourtant, d'autres savent lire et exploiter ces données. » Donc chaque faux profil chez Cécile Portier devient un cheval de Troie destiné à lutter contre ce que Louise Merzeau qualifiait tout à l'heure d'expropriation identitaire. À notre analphabétisme algorithmique, la fiction profilaire de Cécile Portier oppose un savoir-faire d'écrivain, tandis que la littérature devient une arme contre les statistiques numériques. Ces nouveaux êtres de données, comme il y avait avant des êtres de papier, ont sans doute d'ailleurs plus d'influence que ces fameux êtres de papier, car ils participent pleinement à la construction de l'espace numérique qui est le nôtre. Donc ici, c'est assez drôle parce que c'est ce que montrait aussi Jérôme avec le curseur. Et alors, c'est fait pour tablette, c'est-à-dire que vous caressez vraiment la tablette pour faire réapparaître le corps féminin. C'est vraiment très intéressant, cette œuvre. Donc, je conclurai ici. Alors que Perumal Murugan s'était suicidé sur Facebook il y a quelques années, François Bon a quant à lui déjà décidé comment il allait achever son œuvre et sa vie. Vous connaissez peut-être sur son site web son CV, sa biographie absolument tentaculaire. Je vous encourage à aller la lire, c'est souvent très drôle. François Bon a en tout cas tout prévu, donc de 2018 à 2023. Évolution progressive et définitive du site Tiers Livre en arborescence d'œuvres transmédia et préparation d'un verre sphérique inaltérable et indestructible incluant la totalité de cette œuvre unique. Déclare dans son dernier billet de blog « J'aurais pu faire ma vie autrement, mais je n'y avais pas pensé avant ». Cependant, la révélation que l'auteur habitait depuis de nombreuses années dans son site Internet provoque un certain émoi et beaucoup de sensations et d'interrogations dans le monde numérique et littéraire. C'est là, je crois, un ultime exemple de la fusion ou de la stigmergie qui s'opère aujourd'hui entre des espaces qu'on pouvait penser séparés, l'espace numérique et non numérique. François Bon finira donc par aller habiter dans son site web. Qu'une telle initiative soit portée par François Bon, qui n'est pas digital native, est, je crois, assez significative. Comment peut-on penser la construction de cet espace et surtout quelle serait l'influence de ce nouvel espace sur l'humain ? Je voudrais ici proposer en ouverture, alors très honnêtement, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir sincèrement, mais un texte d'Olivier Diens que j'ai lu il y a quelque temps, qui s'appelle « Virus, parasites et ordinateurs ». Alors Olivier Diens est un peu fou, sincèrement. C'est-à-dire que la thèse de ce livre repose sur le fait que nous sommes tous composés que de microbes et nous agissons que pour satisfaire le microbiote. Enfin, c'est assez fou. Et donc, du coup, on est finalement comme des ordinateurs. Enfin, je vous encourage vraiment à aller lire ce texte dans lequel il défend, en fait, aujourd'hui, l'hypothèse de l'existence d'un troisième hémisphère de notre cerveau, celui formé par l'ordinateur et les technologies. Les enfants qui naissent aujourd'hui ne saisiront plus les strates de la réalité sans les sens accrus que leur offriront les technologies. Plus fondamentalement, ces enfants ne pourront plus aimer l'être cher, le saisir, le caresser, sans le filtre cognitif des machines intelligentes. Déjà, la technologie s'empare de nos automatismes de fuite ou d'attaque et les remplace par ses stimuli. Ce phénomène est si important, si total, son impact est à ce point sérieux qu'il ne serait pas absurde de suggérer que l'ordinateur du XXIe siècle joue le rôle d'un troisième hémisphère du cerveau humain. Toute lecture, toute analyse du réel, toute expression de la sensibilité, de la beauté et de l'empathie serait maintenant sculptée par trois hémisphères.